une scène surréaliste hier à New York. La Russie, qui assure depuis le 1er avril la présidence tournante du Conseil de sécurité, a organisé une réunion spéciale sur le maintien de la paix et la défense de la charte de l'ONU qu'elle a elle-même violée en envahissant l'Ukraine. À la manœuvre, Sergueï Lavrov, bras droit de Vladimir Poutine.
Mes chers collègues, comme ce fut le cas pendant la guerre froide, nous avons atteint un seuil dangereux, peut-être plus dangereux encore.
Des alliés de l'Ukraine n'ont pas tardé à dénoncer le cynisme de la Russie, à commencer par les États-Unis.
Les forces russes continuent à tuer et à blesser des civils. Pendant que nous sommes assis ici, nous nous préparons au prochain Boutcha, au prochain Mariupol, au prochain Kherson, à la prochaine atrocité inimaginable.
Cet épisode illustre l'impuissance chronique de l'ONU face au conflit. Et pourtant, depuis 1945, la Charte des Nations Unies vise à préserver les générations futures du fléau de la guerre.
Si nous ne voulons pas mourir ensemble par la guerre, nous devons apprendre à vivre ensemble par la paix.
Mais la machine onusienne semble comme bloquée. En cause notamment, le droit de veto accordé aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Les superpuissances défendent leurs propres intérêts et ceux de leurs alliés. La Chine, par exemple, s'abstient de condamner la Russie. Alors comment réformer l'ONU? L'organisation peut-elle encore œuvrer pour la paix? Ou la Russie vient-elle de lui donner le coup de grâce?
On peut s'en offusquer moralement, mais je dirais, comme vous l'avez dit, nous avons eu l'URSS de Staline, nous avons eu la Chine de Mao, nous avons eu l'Irak de Saddam Hussein, qui ont eu la présidence du Conseil de sécurité. Alors je rappelle pour les spectateurs que présider le Conseil de sécurité n'a aucune importance sur le fond. Hein. C'est le programme du Conseil est approuvé par les États membres. Donc le seul travail du président du Conseil de sécurité, c'est de dire, et je donne la parole au représentant permanent de l'Équateur. Je remercie le représentant permanent de l'Équateur. C'est la seule chose.
Donc honorifique.
Purement symbolique. Vous voyez, vous, il est là, et alors quand vous avez, c'est une fois par mois, hein, qu'on change la présidence du Conseil de sécurité par ordre alphabétique, et lorsque vous avez la présidence, en général, vous faites venir votre ministre, parce que ça permet d'avoir ce genre de photo, et donc j'ai été 3 fois président, et 3 fois le ministre des Affaires étrangères français est venu à New York en cette occasion.
Anne-Cécile Robert.
C'est vrai que c'est très choquant en soi, un État criminel qui préside le Conseil de sécurité, et je suis d'accord avec l'ambassadeur Haro pour dire que c'est pas la première fois, mais ce qui m'intéresse moi dans tout ça, c'est le côté miroir grossissant, en fait, de cet événement. C'est-à-dire, c'est une anomalie, mais il y a plein d'anomalies dans le système de l'ONU. Par exemple, il y a 2 pays qui reconnaissent, seulement qui reconnaissent la Cour pénale internationale, et un seul qui reconnaît la Cour internationale de justice, c'est le Royaume-Uni. Donc il y a toutes sortes d'anomalies comme ça, beaucoup plus graves, et derrière l'agression russe contre l'Ukraine, il y a une réflexion globale sur les équilibres internationaux, parce que le recours à la guerre s'étend malheureusement d'une manière très dangereuse.
On va y revenir tout à l'heure.
Patrick Martin-Genimet.
Alors écoutez, boycotter, non. Certains peuvent laisser le siège vide, comme tout à fait possible, ne pas y aller. Certains avaient estimé qu'on pouvait dégrader le niveau de représentation des États au sein du Conseil de sécurité. Je ne sais pas si certains l'ont fait, mais en tout cas, entendre M. Lavrov, président du Conseil de sécurité, nous parler de multilatéralisme, ça l'affiche mal quand même, parce que le Conseil de sécurité a pour mission la préservation de la paix dans le monde, avoir des missions de paix, voir que éventuellement ne pas qu'il n'y ait pas d'évolution en matière d'armement, etc., de surarmement. Il y a une mission de paix et de préservation et de missions humanitaires dans le monde entier. Voir que M. Lavrov, qui est un État qui a commis des crimes de guerre en Ukraine, alors qu'on doit préserver la paix internationale, préside le Conseil de sécurité, on peut être effectivement moralement et même politiquement choqué, même si effectivement certains vous diront que c'est la routine des Nations Unies et que rien ne peut empêcher le tour de la Russie.
Cette affaire, ce qui me frappe, c'est que on s'indigne, et à juste titre, pour l'Ukraine. Mais il y a eu, parce que la Russie a envahi l'Ukraine, mais Il y a eu d'autres occasions où vous avez eu des présidents du Conseil de sécurité qui avaient envahi d'autres pays, qui s'étaient rendus coupables de crimes contre l'humanité. Et nous, les Occidentaux, on ne s'était pas offusqués de cette affaire.
Donnez-nous des exemples.
Et donc, par exemple, Saddam Hussein. Saddam Hussein avait envahi l'Iran et s'était rendu coupable de crimes de guerre. Et on ne s'était pas offusqués, nous, les Occidentaux. Et alors, je crains que cette affaire, où visiblement on réagit assez fortement à l'affaire de la Russie, ça donne au Sud global une occasion de plus de dire, ben voilà, c'est parce que ce sont des Blancs qui se font tuer, l'Ukraine...
Le Sud global, c'est le continent indien, le continent africain, le reste du monde, à part les États-Unis et l'Europe.
De dire, voilà, c'est parce que c'est des Blancs qui se font tuer que nos amis européens, occidentaux, s'indignent. Mais lorsque ce sont des Noirs qui le sont, quand ce soit des autres, on ne réagit pas. Donc je pense que ça fait un peu ce deux poids, deux mesures occidentales.
En réalité, la Russie, c'est ex-Union soviétique, donc c'était un pays qui était gagnant. C'est un pays qui avait donc battu la barbarie nazie, et donc c'était l'ordre issu de la Seconde Guerre mondiale. Et voir qu'un pays qui a souscrit à ce nouvel ordre mondial issu de la Seconde Guerre mondiale viole tous les principes de la Charte des Nations Unies, je pense que c'est plus cela qui choque plutôt que d'autres pays. Vous voyez, parce que la Russie, ex-Union soviétique, certains vous diront que la Russie n'avait pas sa place au sein du Conseil de sécurité, c'est quand même l'héritière de l'ancienne Union soviétique. C'est ça qui est choquant, c'est que c'est un pays issu des puissances victorieuses qui puissent avaliser des crimes de guerre. Et ça remet complètement en cause la Charte des Nations Unies.
Justement. À ramener toujours vers les équilibres collectifs et les principes généraux. On a raison de s'indigner contre la Russie, parce que le crime qu'elle commet est absolument intolérable. Mais il faut à chaque fois se souvenir de tout ce qui s'est passé avant. Il y a 20 ans, les États-Unis se sont moqués du Conseil de sécurité en mentant à propos d'Irak, avec de fausses informations complètement truquées. Jamais il n'y a eu de sanctions pour ça. En ce moment, on a le souci avec le Rwanda, qui menace la souveraineté de la République démocratique du Congo. On a du mal à faire émerger ça, parce qu'il y a des intérêts géopolitiques très importants. Donc si on saucissonne les sujets les uns après les autres, on va perdre en crédibilité et effectivement, on va alimenter cette idée du deux poids, deux mesures qui est vraiment le tombeau de l'ordre international.
Alors ça aussi, en réalité, elle est assez isolée. C'est-à-dire que la Russie, aucun pays approuve l'invasion de l'Ukraine par la Russie, à part les usual suspects comme la Corée du Nord ou le Nicaragua ou Cuba. Mais le reste du monde ne veut pas nous suivre pour s'engager dans une croisade contre la Russie. Au fond, le reste du monde nous dit, à nous occidentaux, vous voulez qu'on fasse des sacrifices pour vos intérêts, vous n'en avez jamais fait pour les nôtres. Voilà, c'est cela la réalité de l'ordre international. L'équilibre du monde a changé. Et l'équilibre du monde a changé aux dépens de l'Occident. Et donc vous avez maintenant des pays qui osent dire ce qu'ils pensent vraiment, qui osent dire aux Occidentaux « Assez, c'est assez, nous faire la morale, de diriger le système, ce n'est plus possible ».
Les Occidentaux n'ont pas l'air de forcément prendre en compte et de se rendre compte de cette évolution des rapports mondiaux. Ils continuent de se comporter comme s'ils pouvaient donner le « là », comme s'ils pouvaient dire le bien et le mal, alors que tout indique tous les continents, que ce leadership est remis en cause. Et ça, c'est dangereux.
Nouveau, hein, parce que alors, la réforme du Conseil de sécurité, on essaye de le réformer depuis 1995. Hein, et les Américains n'ont jamais été enthousiastes pour cette idée, pour une raison simple, c'est qu'il faudrait que ce soit approuvé par le Sénat des États-Unis à la majorité des deux tiers. Or, c'est exclu que le Sénat des États-Unis approuve n'importe quoi au sujet des Nations Unies.
Ce serait quoi réformer l'ONU?
Alors, le Conseil de sécurité représente... Pour aller dans votre sens, est le reflet de l'équilibre des forces en 1945. Pourquoi la France et la Grande-Bretagne comme membres permanents, et pas l'Inde, et pas le Brésil, et pas le Japon. Donc, on veut, pour rendre toute sa légitimité au Conseil de sécurité, on essaye de le réformer. Mais c'est bloqué depuis 1995. Alors pourquoi? C'est simple. L'Allemagne est candidate, aussitôt l'Italie s'y oppose. Le Brésil est candidat, aussitôt le Mexique s'y oppose. Et naturellement, l'Inde, la Chine s'y oppose. Et donc tout le monde se bloque. Et donc on en discute. Les Nations Unies sont très bonnes pour parler. Donc on en discute depuis maintenant 25-28 ans. Et honnêtement, je ne vois pas comment on réformera le Conseil de sécurité.
Je veux dire, aucune grande puissance n'accepterait de participer à une organisation qui a un pouvoir coercitif si elle n'a pas les moyens de se protéger. Et c'est pas ce qu'on
mais
a accordé.
Mais elle a un pouvoir coercitif. Il y a un pouvoir contraignant.
Oui, bien sûr. Le Conseil de sécurité, oui, chapitre 7 de la charte.
Les sanctions, les opérations militaires comme en 1990 sur l'Irak.
Je rappelle qu'on a eu l'expérience d'une organisation internationale sans droit de veto, c'était la Société des Nations, entre 1919 et 1939. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que chaque fois qu'une grande puissance était condamnée, elle quittait la salle. Donc on a eu le Japon, vous vous rappelez tous, Tintin et le Lotus Bleu, où on voit le Japon qui quitte la Société des Nations. Vous avez eu l'Italie, l'Allemagne et l'Union soviétique. Et donc en 1940, il ne restait plus personne.
Oui. On n'a jamais empêché, enfin ce qu'on appelle le vote confirmatif au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce droit de veto n'a jamais empêché de faire un certain nombre d'opérations, telles que des opérations humanitaires.
Mais même en Syrie, par exemple, où il y a eu des droits de veto régulièrement, ça n'a pas empêché certaines opérations, certaines résolutions.
Oui, évidemment. Ce que je veux dire par là, c'est que je parle d'opérations purement humanitaires, des opérations de santé, de sauvetage des populations qui sont en danger. Et ça, il peut y avoir des accords, mais lorsqu'on touche à la souveraineté des États ou aux États vassaux des autres, tels que la Syrie ou autres, l'Ukraine, eh bien, tous les grands États, notamment la Chine et la Russie, vont effectivement se neutraliser.
Quand même,
en théorie, il faudrait effectivement que le Conseil de sécurité soit plus représentatif et qu'on arrive à un consensus pour ça. Après, ça ne réglera pas le problème de savoir qui représentera chaque continent. Je sais que, par exemple, les Africains ont un consensus sur quelques pays, mais on ne sait pas s'ils seraient politiquement capables de le porter. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait au moins ça, sans forcément élargir tous les droits qui vont avec, y compris le droit de veto.
Non, mais pour élargir le Conseil de sécurité, il faut que les 5 membres permanents soient d'accord, plus les 2/3 des membres de l'organisation. Et ça n'arrivera jamais.
Eh bien, la Russie, la Chine, ne représentent plus tout cet ordre mondial. Il y a toute l'Afrique, il y a l'Amérique latine. Et donc, je pense qu'effectivement, il faudra le réformer. On parle, il y a 15 membres au global, 5 qui ont le droit de veto. Mais regardez, dès lors qu'on parle en Europe, on en a parlé, nous aussi, en Europe. Est-ce que la France ne pourrait pas céder son siège, soit à l'Union européenne, soit à l'Allemagne? Eh bien, dès qu'on dit cela, c'est impossible. Alors que certains estiment que le fait que la France puisse céder son siège au Conseil de sécurité, ce serait un abandon total de souveraineté. Non,
mais alors, observé dans la période récente, c'est que la France se concertait dans l'usage de son veto, notamment avec l'Allemagne. Il y a eu cette présidence conjointe intéressante en 2019. Donc il y a une tentative quand même de partager de la part de la France.
C'est le traité sur l'Union européenne qui nous impose de...
Et l'autre chose qui me semble intéressante, c'est que pendant depuis que la guerre d'Ukraine a déclenché, on voit que l'Assemblée générale retrouve finalement son rôle de représentatif de l'ensemble de la société internationale. C'est assez frappant de voir que ça a été un peu le révélateur. On peut voir en temps réel, quasiment, quand il y a un vote, qui pense quoi, qui fait quoi, comment évoluent les rapports de force. Je trouve que c'est un peu une bonne nouvelle que de voir que l'ONU retrouve une forme d'utilité de ce côté-là.
J'ajoute que on pense à la Syrie, on pense à l'Ukraine, mais vous avez tous les sujets d'intérêt planétaire, comme la lutte contre le changement climatique, la préservation des espaces marins. Et là, vous avez les Nations Unies à l'Assemblée générale qui réussissent à travailler.
L'ONU continue de travailler, même le Conseil de sécurité travaille. Je veux dire, il y a cette histoire d'Ukraine sur laquelle il est bloqué, mais si vous regardez son programme de travail, il parle du Soudan, il parle de la Somalie, donc il y a des choses qui se passent. Le vrai danger pour moi, c'est que l'ONU ne devienne une simple organisation humanitaire. Je pense que l'idée de départ, qui était d'avoir un forum mondial où on essaie de polisser les relations internationales en ayant des espaces de discussion, on essaie de construire bon an mal an des consensus, ne doit pas être abandonnée. Et le plus inquiétant, c'est qu'on a l'impression qu'en ce moment, les grandes puissances ont plutôt tendance à cultiver le dissensus, c'est-à-dire à chercher l'affrontement. On a l'impression qu'elles ont envie de se mesurer. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que ça peut faire tout tomber avec des conséquences dramatiques.
Et donc, si ces États qui sont farouchement attachés à leur souveraineté, le mot de clé, c'est souveraineté, c'est-à-dire que les États veulent surtout pas que les Nations Unies portent atteinte à leur souveraineté, si ces États ne s'entendent pas, il n'y a pas de Nations Unies. Les Nations Unies, c'est à l'image, je dirais, du climat international. Pendant la guerre froide, le Conseil de sécurité ne se réunissait quasiment pas. Rien n'arrivait. Tout était bloqué. Nous entrons, hélas, dans une nouvelle ère de blocage entre les grandes puissances, et ça a des conséquences inévitables sur les Nations Unies.